J'ai fréquenté plus de 7 écoles sans succès. Leur système n'était pas très adapté à mes besoins et j'étais découragée. Il y avait toujours un obstacle sur ma route. Je rêvais de trouver une école qui correspondait à mes besoins. Après bien des recherches, j'ai fini par trouver l'école Félix-Antoine. C'était du ciel. Patricia Gagné, directrice générale de La Masque, qu'est-ce qu'on entend?
Salut Chantal! Oh. On fera pas semblant qu'on se connaît pas, hein? Non.
Non, on est des cousines donc, dans la vie.
On va se tutoyer, donc.
Oui.
Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui résonne dans ce témoignage-là? Oui. De la résilience, du courage et la lumière faite sur les capacités de cette personne-là, en l'occurrence, et de ces personnes-là. Tout près de 2000 personnes qui passent dans nos milieux adaptés de scolarisation chaque année, partout au Québec. Donc, dans 12 régions du Québec qui sont desservies par un milieu adapté de scolarisation.
Donc, qu'est-ce que c'est un milieu adapté de scolarisation?
Un milieu adapté de scolarisation, c'est un organisme du secteur communautaire. Donc, secteur communautaire, ce sont des organisations qui sont portées par la communauté, qui sont gérées par un conseil d'administration autonome qui fait partie de la communauté. Et donc, qui n'est pas du secteur public, qui n'appartient pas au gouvernement. On ne parle pas ici de centre de services scolaires, on parle de vraiment des organisations communautaires qui offrent des services de scolarisation et ou d'accompagnement pour des personnes qui sont en situation d'exclusion scolaire, beaucoup, souvent, et de vulnérabilité. Donc, qui ne trouvent pas écho et réponse à leurs besoins dans le secteur traditionnel.
Quand on parle d'exclusion, est-ce que ce sont des jeunes qui ont été exclus de l'école ou pour toutes sortes de raisons se sont exclus eux-mêmes? Parce qu'on évoque un peu le décrochage scolaire par ce phénomène.
Oui. Bien, en fait, il faut savoir qu'il y a près de 17 % des personnes qui sortent sans diplôme ni qualification vraiment. Et chez les HDAA, c'est près de 40 %. C'est quoi HDAA, vas-tu me demander?
Tu lis dans ma tête!
Oui. C'est le fameux jargon du gouvernement pour parler des élèves qui vivent avec une situation d'handicap et ou des difficultés d'adaptation et ou d'apprentissage.
Donc, le TDAH ferait partie des HDAA?
On n'entrera pas là. On n'a pas assez de temps pour aller là. Et donc, c'est avant 16 ans qu'ils sont qualifiés de HDAA et après 16 ans, parce que pour le milieu scolaire, un adulte, c'est à partir de 16 ans.
Parce qu'on doit aller à l'école jusqu'à 16 ans.
Puis ensuite, c'est la formation générale des adultes. Alors, on les appelle les élèves à besoins particuliers. On dit qu'ils sont en trouble d'adaptation et d'apprentissage. Mais j'entends souvent de nos milieux, et je suis assez d'accord, n'est-ce pas le système qui est en trouble d'adaptation envers eux?
C'est un positionnement quand même important. Comment on arrive, ce jumelage-là, entre le système éducatif et les organismes communautaires qui sont en complémentarité?
Le jumelage, bien en fait, je peux dire que il y a beaucoup de milieux adaptés de scolarisation qui sont mis sur pied, qui sont démarrés à la demande du centre de service scolaire. Hein. Quand je parle de centre de service scolaire, c'est ce qui a remplacé les fameuses commissions scolaires francophones. Et le dernier né, c'est l'école du Courant aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, a vu le jour à la demande du centre de service scolaire parce qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas être scolarisées, n'avaient pas ce qu'il fallait pour pouvoir terminer les services qu'il leur fallait, je précise. Ce que je voulais dire tout à l'heure, ce qui est important, c'est que ce qui fait la différence chez nous, c'est l'intervention psychosociale qui est jumelée avec la scolarisation. Puis c'est de l'intervention psychosociale intensive, c'est-à-dire qu'il y a toujours un intervenant ou une intervenante pas loin pour être en mesure de gérer une crise s'il y a lieu. Ce sont des personnes qui vont avoir des traumas. Puis parfois des traumas complexes aussi. Mm. Tu sais, si on pense aux ex-placés de la DPJ, qui sortent à 18 ans, souvent avec un très faible scolarisation. On parle des personnes qui ont des parcours migratoires complexes et difficiles. On parle de jeunes aussi qui ont fréquenté la rue, la toxicomanie, donc qui sortent de prison aussi. Mm. Mais il y a vraiment toutes sortes de profils. En fait, ils ont besoin vraiment d'intervention. Ils ne sont pas assez autonomes pour poursuivre leur cheminement scolaire dans le réseau public.
Donc, à ce moment-là, le système éducatif va dire on n'a peut-être pas toutes les ressources pour être en mesure de répondre à leurs besoins.
Ouais.
Donc, va demander aux organismes communautaires de pouvoir développer des services ou leur donner des services qui ne sont pas en mesure... Est-ce que ça fait pas, d'une certaine manière, de la scolarisation à deux vitesses? Parce que, tu sais, on emploie souvent cette expression-là avec le privé, mais là, c'est comme s'il y a certaines personnes qui peuvent être dans le chemin du système éducatif normal et d'autres qui ont besoin, dans le fond, ce que je comprends, de ce soutien psychosocial-là pour réussir comme les autres, avoir les mêmes chances de réussir.
Je l'appellerais pas à deux vitesses. Mm. Moi, je l'appellerais... J'appellerais les milieux adaptés de scolarisation un outil pour que les personnes puissent aller à la même vitesse.
Mm.
Donc, c'est la même vitesse pour moi. C'est pas
plusieurs
vitesses.
Ah, c'est une belle nuance. Oui. Dans ces 39 organismes, je crois qu'il y a des organismes aussi qui sont plus dans l'économie sociale ou peut-être nous faire un petit portrait des types d'organismes qu'on retrouve dans ces 39 organismes à travers le Québec.
Bien, ce qui fait la beauté de notre alliance, c'est la diversité de ses membres.
Mm.
Je pense à Cyclochrome, qui est une entreprise d'économie sociale ici à Montréal. C'est fabuleux parce que ils permettent à leurs employés de terminer leurs études secondaires sur le lieu de lieu de travail et leur permettent d'avoir une attestation d'études secondaires, d'études professionnelles en mécanique vélo. Et ils ont le contrat de réparation des Bixi ici à Montréal. Alors, ils payent leurs employés pour terminer leurs études secondaires. C'est vraiment... vraiment super comme modèle. Donc, c'est des parcours éducatifs, mais des parcours aussi professionnels. Mm. Et je pense à Déclic aussi, ici à Montréal, qui est un organisme communautaire qui est pratiquement l'ancêtre des milieux adaptés de scolarisation.
Je peux pas passer sous silence que Déclic a été fondé par une de mes grandes amies et qui avait ce rêve-là à l'université. Donc oui, on peut dire que ce sont vraiment des pionniers.
Oui. Donc, Déclic existe depuis 32 ans cette année et il se spécialise vraiment dans l'intervention auprès des personnes qui ont des traumas complexes. Mm. Alors, par exemple, sous des apparences de démotivation, de difficultés, de motivation, tout ça. En dessous, il y a des traumas, il y a une perte d'estime de soi. Donc, avant que la personne soit en mesure de se scolariser, ça prend un accompagnement. Mm. On peut pas laisser cette personne-là sans avoir fait un travail préalable. Il travaille beaucoup avec les ex-placés de la DPJ. Mm-hmm. Et je pense à... Peut-être, je vais te nommer deux autres modèles, là. Mm-hmm. L'école Félix-Antoine aussi.
Donc, la jeune dont on lisait le témoignage,
oui,
c'est
oui.
ça?
Qui est une école qui est dans une école comme telle, qui reçoit, bon an, mal an, 60 élèves. beaucoup issus de l'immigration. Et qui ont décroché peut-être... à la hauteur de 75% au moins une fois. Donc, ils viennent à l'école Félix-Antoine et qui trouvent le soutien psychosocial et pédagogique. Je pense à la Dauphine à Québec, Tout le monde au Québec connaît la Dauphine. Plusieurs personnes à Montréal aussi. Ils travaillent beaucoup avec les personnes en situation d'itinérance. Et ils offrent une école, l'école La Dauphine. Et ils permettent aussi d'avoir de former les personnes pour avoir accès à un métier. Mm-hmm. Par exemple, toilettage d'animaux. Je pense aussi à l'école du milieu de Lévis, qui est une école aussi qui a une belle entente, encore une fois, avec son centre de service scolaire, où il y a des références. Où le centre de service scolaire dit, ben là, cette personne-là fonctionne pas bien dans le milieu régulier. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour lui permettre le droit à la scolarisation? Mm. Parce que c'est un droit d'être scolarisé, selon nos besoins spécifiques.
Patricia, il y a ces 39 organismes-là qui sont plongés au quotidien, là, qui se dévouent de façon extraordinaire. Et il y a la MASC, donc l'Alliance de ces milieux adoptés de scolarisation du Québec. Quel est votre rôle à l'Alliance? C'est une question comme ça, pourquoi l'Alliance versus regroupement?
Oh, c'est une jolie question. Je pense, j'étais pas en poste au démarrage là, de l'Alliance, mais ce qu'on m'avait relaté, c'était que nous avons besoin de nous rassembler parce qu'on se reconnaît pas nulle part, puis on est tellement distinctifs et différents qu'on peut pas se nommer regroupement comme un autre. Alors, on va se nommer une alliance. Le mot était davantage évocateur sur la nature aussi de nos activités.
Oui, bien, je comprends un peu avec la diversité que tu viens de nous exposer, que dans leur effort de personnaliser, d'adapter l'éducation, ça se fait aussi sous la forme des organismes. Patricia, on prend une courte pause et j'aimerais ensuite qu'on parle des états généraux sur l'éducation adaptée que la MASC a tenu récemment, pour voir un petit peu quelques conclusions, pistes d'avenir pour ces jeunes dans le futur. De retour en studio avec Patricia Gagné, directrice générale de l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation du Québec, qui tenait récemment des états généraux de l'éducation adaptée. Patricia, de quoi on a discuté à ces états généraux et est-ce qu'on en arrive à des prochaines étapes ou à des pistes de solutions ou peut-être à des rencontres marquantes pour faire avancer la nécessité de vos services?
Bien, d'abord, là, pour travailler ensemble et collaborer, il faut se connaître. Mm. Et un constat qu'on a fait en organisant cet événement-là, qui a été porté par l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation, qui a formé un comité organisateur composé des principaux intervenants en éducation des adultes, c'est que on se connaît pas. Donc, on a fait d'abord un état des lieux sur c'est quoi la condition actuellement du décrochage scolaire et des enjeux que vivent les personnes, les transitions aussi, passage école primaire secondaire, secondaire collégial, les transitions à la vie adulte. Donc, on a dressé un portrait. Et la deuxième journée, on a élaborer des pistes, des leviers, des obstacles à la collaboration pour pouvoir déconstruire les obstacles et davantage collaborer au bénéfice des personnes qui ont besoin des services de scolarisation adaptés. Et c'était aussi une belle occasion de réunir tous les acteurs de l'écosystème éducatif. Je parle des syndicats, la Centrale des syndicats du Québec, l'Office des personnes handicapées du Québec, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qui, par ailleurs, a fait mené une étude en 2018 qu'elle a réactualisé en 2024 sur les bris de service auprès des personnes HDAA, donc handicapées.
Donc, ils se retrouvent sans possibilité de... Ils n'ont pas, de programme, ils n'ont pas de soutien quand on parle de bris de service?
Bien, c'est-à-dire que le taux de décrochage est de 40 %
chez ces clientèles-là.
Chez ces clientèles-là. Ouais. Puis là, il faut dire que ce sont les personnes qui ont un diagnostic, Chantal.
Oui.
C'est pas tout le monde qui a accès à un diagnostic. Ça prend des spécialistes, ça prend des parents soutenants. C'est pas tout le monde qui a des parents soutenants aussi pour aller chercher ce dont la personne a besoin, pour aller... en tout cas, si vous, tes auditeurs et tes auditrices sont intéressés, sur le site de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, toute l'étude est là. Mm-hmm. C'est fascinant, c'est alarmant en même temps.
Ouais.
Donc, on a, terminer de répondre à ta question, on a rédigé ensemble une déclaration commune qui, finalement, déclame la nécessité des milieux adaptés de scolarisation dans l'écosystème éducatif québécois. Et là, on va travailler sur un cahier de propositions à remettre au gouvernement. Entre autres, de réviser la politique sur l'éducation adaptée, qui date de 1999. Alors, il y a de l'actualisation à faire. Les réalités sociales sont différentes. Puis on en a assez parlé que depuis la pandémie, les problématiques sociales se sont accentuées. Donc, ça se répercute. On le ressent dans nos milieux, ça.
Et peut-être, tu sais, sans nous abreuver de chiffres comme tels, mais juste pour qu'on saisisse à quel point c'est important le travail que les organismes que vous représentez font. Est-ce que j'avais lu qu'il y avait une étude là, récente en 2024 de l'Université du Québec à Trois-Rivières, je crois, qui chiffrait un petit peu l'impact du décrochage scolaire. Peux-tu nous en parler?
Oui, en fait, c'est une étude récente qui a été réalisée par l'économiste Frédéric Lorrain de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui, déclare que le décrochage scolaire, ça coûte 17 milliards au Québec.
17 par milliards?
Année. Par 17 année. Millions. Il a fait une étude là, pour comptabiliser les coûts, le manque de revenus des gouvernements par l'inactivité des personnes qui ne travaillent pas, donc qui se retrouvent à l'assistance sociale, aussi les coûts de santé et services sociaux, en tout cas une étude incroyable. Là. Alors, 17 milliards, moi, j'en revenais pas vraiment de ce chiffre-là. Alors, d'investir 10 millions par année dans les milieux adaptés de scolarisation.
Oh, je pense que le retour sur investissement serait là.
Oui, tout à fait, parce qu'on n'est pas, on n'a pas de financement récurrent, là, contrairement aux écoles publiques encore. Donc, le rôle de l'Alliance, c'est de représenter les milieux adaptés de scolarisation, mais c'est aussi de travailler sur la reconnaissance. La reconnaissance publique, on l'a eue avec les États généraux sur l'éducation adaptée. Tout le monde s'est entendu pour dire qu'on est essentiel et qu'on devrait travailler en collaboration, en complémentarité avec les centres de services scolaires partout au Québec. Maintenant, ça nous prend la reconnaissance financière aussi.
Mais du côté du service public, de pouvoir effectivement compter sur vous, ça leur permettrait peut-être de se concentrer sur leur mission. Donc, ça fait partie des discussions que vous avez.
Oui, tout à fait. Donc, suite à ces états généraux-là, ça fait quand même seulement quelques semaines, là, il va y avoir des rencontres entre les deux grands regroupements, donc la Fédération des centres de services scolaires du Québec, l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation du Québec, en l'occurrence moi, pour voir comment on peut collaborer, parce qu'il y a des régions où les collaborations sont excellentes, d'autres régions c'est peut-être plus difficile, donc toujours dans l'optique de mieux se connaître, pour mieux collaborer, pour diminuer le taux de décrochage finalement.
On parlait d'investissement financier, social et autres. Ton investissement personnel à toi dans cette cause-là, comment ça a émergé?
Bien, ça a émergé que moi, je proviens d'un milieu familial où la pauvreté économique et, disons-le, intellectuelle, là, je suis la première de la famille à avoir mené des études universitaires, était quand même présente. Et ce fut pas un chemin très, très, très facile. Il a fallu beaucoup, beaucoup de détermination. Et j'ai eu la chance d'avoir de la facilité à l'école pour apprendre. Puis j'étais curieuse, j'aimais ça. Mais c'est vraiment rendu au cégep et à l'université que là, je me reconnaissais pas. Je me reconnaissais pas, moi, dans mon parcours et le parcours des autres. Manifestement, les autres venaient de milieux beaucoup plus favorisés, pas seulement financièrement.
Soutenant,
etc., etc. Et ça, c'est mon premier choc. Et mon deuxième, c'est une très jolie et brillante jeune fille qui, il y a quelques années, qui est très, très près de moi, qui, en secondaire 2, a craqué. Et on avait d'autres choix de lui proposer l'école à la maison. Ça lui aurait pris un milieu adapté de scolarisation. Et donc, quand j'ai donc vu l'émergence de l'Alliance qui recherchait quelqu'un pour mener cette... Il y en a qui disent que je suis missionnaire, là, mais écoutez, c'est de prendre un bâton, puis c'est d'aller défendre, puis... Donc, je me suis reconnue, puis je me dis, OK, je vais porter ça. Je vais porter ça, cette cause-là, parce que j'y crois, je l'ai vécu de l'intérieur, que quand tu viens d'un milieu qui est pas... qui est pas adéquat et où tu as des enjeux, tu as des différences, que ce soit neuroatypique, que tu as des difficultés d'apprentissage comme la dyslexie, dysorthographie, etc., bien, l'égalité des chances, là, c'est pas là. Puis l'égalité des chances, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on nivelle. Ouais. Là, on essaie de niveler le plus possible.
Quand tu parles de bâton, bâton de pèlerin,
mais le bâton de pèlerin, oui.
Oui. Mais dans le sens que tu dis, j'ai pris mon bâton, puis je vais mener ça, c'est un bâton de pèlerin, c'est vraiment comme une quête. Tu le vois comme une forme de quête pour toi?
Bien, oui, parce que le changement social, faire bouger les structures, les politiques et les programmes, il faut avoir des intentions puis des motivations de missionnaire, quelque part, parce que c'est difficile, il y a beaucoup d'obstacles, mais il y a tellement beaucoup de réussites aussi. On l'a vu avec les États généraux, c'est très valorisant. Puis si on fait ça, on les voit, les personnes pour qui on fait ça, pour qui on travaille. Donc, c'est un travail qui est en amont. Puis, je voulais aussi dire, Chantal, avant, je ne sais pas combien de minutes il reste, mais...
Une minute.
Vas-y. Une minute. Oui. on est, en fait, très actif au sein du Réseau québécois en innovation sociale, le RQIS. Et donc, l'Alliance, les pratiques qui sont faites par les milieux adaptés de scolarisation se réclament de l'innovation sociale et on y représente les milieux associatifs.
Donc, trouver de nouvelles façons de régler des problèmes malheureusement récurrents.
Oui. Et c'est ce qu'on fait dans nos milieux. On fait de l'innovation à tous les jours.
Merci beaucoup, Patricia Gagné. On rappelle, tu es directrice générale de l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation du Québec. Merci de mettre toute ta passion au service de ton indignation et de prendre ce fameux bâton de pèlerin depuis tant d'années pour faire une différence à tous les jours. Et merci de faire une différence dans ma vie aussi depuis tant d'années.
Merci Chantal.
Merci.
Toi aussi. Bye.
Bye.